Il est 8h09, c'est les promesses de l'aube, toujours, et on accueille nos invités, Leslie et Corentin, qu'on va laisser se présenter eux-mêmes. Parce que c'est toujours comme ça qu'on fait, hein, n'est-ce pas? Déjà, bonjour Leslie, bonjour Corentin, bienvenue.
Salut Lydia, salut Fred.
Bonjour.
On est très content d'être parmi vous de si bonne heure.
Oui, alors on va expliquer quand même pourquoi vous êtes là. Donc voilà, on va parler création radiophonique ce matin avec une fiction qui s'appelle Superflux. Et d'abord, mais qui êtes-vous? Bon, Leslie, en tout cas, on te connaît bien à Radio Panique, hein, à plein d'endroits. Voilà, mais là, ça n'est pas pour. Enfin, il y a un côté Radio Panique aussi, hein, puisque.
Ben, en vous écoutant déjà, je me suis rendu compte que ma voix, je ne savais pas, était dans les jingles des matinales depuis, donc maintenant j'apprends 7 ans. Ça me fait un peu tout drôle.
Elle a pas changé. Hein.
Mais c'est bien la voix du matin là. moi j'aime bien les casquettes, j'en ai pas mal, notamment celle de collaborer avec Culture et Démocratie via Panique. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des transpositions sonores des numéros, des parutions des journaux en fait de Culture et Démocratie à chaque fois que ça sort, c'est-à-dire à peu près 3 fois par an, et on cherche une façon chouette de la radiophoniser. Donc ça peut être j'allais dire des bêtes émissions, mais c'est jamais des bêtes émissions, en tout cas des tables rondes sur un sujet donné, qui peut être la lecture, qui peut être la pauvreté, qui peut être la culture populaire, quand je pense au dernier, mais qui peut être aussi, et c'est quelquefois beaucoup plus certes chronophage mais drôle, c'est-à-dire des créations radiophoniques, donc partir d'un texte d'un numéro et en faire quelque chose d'assez différent, pour ne pas dire complètement flyé. C'est ce qui s'est passé avec Superflux, qui est en fait une déviation, une dérivation d'un article du numéro 53, je pense, du journal 53, consacré au territoire. Et c'est là que, tadam, Corentin intervient.
Et donc, c'est à partir du texte Pistage dans le cyberespace. Alors, Corentin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta contribution?
Alors, moi, je suis là parce que je sais pas dire non, en fait. C'est un peu ça le problème. Donc, ça a commencé avec Culture et Démocratie déjà, où ils voulaient qu'on écrive un article avec Technopolis, un collectif auquel je participe.
Et on a déjà reçu ici. Hein.
Et du coup, voilà, j'ai pas su dire non. Et donc, j'avais écrit effectivement cet article. Ben, on va peut-être essayer de parler un peu de qu'est-ce qu'il raconte, tout ça. Et puis après, dans la même veine, j'ai reçu un mail de la Leslie, qui est ici présente à ma droite, et qui voulait faire un podcast basé sur l'article. Et j'étais censé juste faire une petite réunion, comme ça, pour qu'on voit...
J'avais quand même dit 3 degrés d'implication. Ah oui, tu peux juste le lire et puis m'offrir ton expertise, voilà. Ou alors t'impliquer un peu plus, ou alors t'impliquer beaucoup plus. C'est un peu la technique du pied dans la porte, voilà. Comme ça. Toi, voilà. Tu l'as bien ouvert.
Ouais, ça a super bien marché. Et du coup, plutôt que de juste simplement essayer d'adapter facilement l'article pour en faire un truc audio, eh ben, on est parti dans un gros délire de fiction, ou de non-fiction, on ne sait plus.
Donc toi, c'est la première fois que tu participais en fait à l'élaboration d'une fiction radiophonique?
À ma connaissance, oui.
Ok. Voilà. Bon, alors ce que je propose, c'est qu'on l'écoute dans un premier temps, et puis on parle ensuite du fond du sujet.
Avertissement à destination des personnes électro-hypersensibles, ce podcast contient des scènes de violence ondulatoire. Veillez à enfiler votre combinaison d'aluminium avant d'écouter la suite.
Bruxelles, 13 juin 2022. Place de la Monnaie, une poubelle connectée et une trottinette électrique se retrouvent dans un bar pour se raconter leur journée. Elles sont rejointes au comptoir par le Wi-Fi gratuit du Décathlon et le smartphone d'un passant.
Mais quelle journée de merde! Ils m'ont déjà ramassé 7 fois aujourd'hui, 7 fois! Tous les coins de la ville, tu vois, et ils m'ont toujours mal garé. Et la journée est encore longue, parce que je suis à 52% de charge. Genre, je peux faire encore au moins 28
km. Ça arrive. Journée tranquille pour moi. Je suis plein. J'attends. Je leur ai dit. 99% rempli. Il y a déjà 4h54 minutes. Aucun signe du camion. Tant mieux. Moi, je l'ai dit, hein. Je suis plein et j'attends.
Non, mais sans compter que ces salauds m'ont déjà jeté par terre 9 fois depuis ce matin. Non, mais sans deck, si tu me gares au milieu de la rue. Oh, la journée est encore longue.
Ça arrive. Je ne sais pas comment vous, nomades, arrivez à faire tout ça. Moi, j'attends toujours. Je l'ai dit, hein. Je suis plein, j'attends.
Bonjour, vous êtes invité à vous connecter à notre réseau gratuit. Vous pourrez recevoir toutes nos dernières offres sans le demander et vous pourrez obtenir une réduction de 5% sur tous vos achats dans les nouveaux rayons paddle, aerofit, ping-pong et zumba.
Ah bah pas mal, hein, la vie du wifi de Decathlon. Fixé au plafond, pas de recharge et pas de vandalisme.
Je me plains pas non plus. Je n'ai pas non plus besoin de bouger. Je suis dehors. Je vois beaucoup de gens différents. Je dois juste faire savoir quand je suis plein.
Bonjour, vous êtes invité à vous connecter à notre réseau gratuit. Vous pourrez recevoir toutes nos dernières offres sans le demander et pourrez obtenir une réduction de 5% sur tous vos achats dans les nouveaux rayons paddle, aerofit, ping-pong et zumba.
Merci, je ne suis pas vraiment intéressé par les offres, mais est-ce que je peux utiliser le wifi juste une minute?
Attends, mec, là. C'est pas ton humain qui m'a jeté par terre il y a quelques instants?
Oulala, il y a un appel entrant. Désolé, je dois y aller.
Voilà plus ou moins ce que les appareils disent toutes les quelques secondes tout autour de nous. Sauf qu'en réalité, ils ne parlent pas les uns aux autres en alternance. Ils parlent tous en même temps, les uns sur les autres. Quelque chose comme ça.
Quelle journée de merde!
Il m'a déjà passé
tous les points de la journée tranquille. Et mon jour mal garé.
Je suis bien, encore long. J'attends.
Désolé.
Je leur ai dit
bonjour.
Il y a déjà 4h54.
Zumba, Kizumba.
Aucun signe du camion. Bonjour. Tant mieux.
Et une autre chose. Ceci a été ralenti pour entendre ce qu'ils disent. Mais en réalité, chaque message serait dit à la vitesse de la lumière et toute la non-conversation prendrait moins d'une seconde. Donc, plutôt comme ça.
Bring.
Les communications que nous venons d'écouter pour une fraction de seconde remplissent tout l'espace urbain à chaque instant, même si nous ne les entendons jamais. Mais il y a quelque chose d'autre en ville qui est avide de ces écoutes. Des audiophiles algorithmiques qui collectent et trient ces voix et en extrait des informations exploitables pour des raisons variées. Ce qui suit est une traduction humaine extrêmement fidèle de leur conversation.
Hey. Hey Nico, regarde. Celle-là, elle a le tout dernier iPhone.
Non.
Ah bah, il y en a qu'on ait le moyen, hein, ah, ici, ouais. Eh bien, on lui envoie une pub pour une montre connectée.
Ah, ça, c'est bien vu, ça, Denis. Eh, regarde ça. Tu vois le petit couple de trentenaires, là, hein, ceux qui viennent au resto ici tous les jeudis soirs. Eh bien, d'après nos données, ils ont le même réseau Wi-Fi au boulot, mais pas à la maison.
Mais non. Non.
Ouais, je te jure.
Eh, relation adultère entre collègues.
Bah, je crois bien, ouais. Mais attends, on va leur envoyer des petites pubs, là, tu vois, pour notre programme spécial défense de la vie privée, là. Moi, je crois qu'ils vont pas cracher dessus.
Et regarde le type qui a l'air un peu paumé, là.
Quoi, genre jeans bleu, t-shirt blanc, un peu moche, là.
Et bah, depuis qu'il s'est connecté au Wi-Fi, il reçoit que des notifs d'app de dating. Il en a au moins 3 différentes.
Bah, il sait plus quoi faire pour pécho, quoi. Ouais. Je comprends, hein. Mais qu'est-ce que tu penses, petit combo, là, genre promo Nike, Polo, Odeo?
Vendu.
D'après nos estimations, il faudrait limiter de 24% le trafic sur la petite ceinture pour atteindre les objectifs de l'OMS en termes de qualité de l'air.
De notre côté, nous aurions besoin d'une augmentation de 17% de la fréquentation de nos enseignes pour atteindre les objectifs trimestriels promis à nos actionnaires.
L'épargne-pension de nombre de nos concitoyens en dépend. Quelle piste avons-nous?
Eh bien, nous pensons qu'en perçant un axe pour les voitures en parallèle du piétonnier, on pourrait atteindre des chiffres corrects.
Ça va nous coûter cher.
Oui, mais ça va nous rapporter gros.
Vendu.
je trouve pas le dataset, il est, où est-ce qu'il est encore?
Peter Mert, je t'ai déjà dit 1000 fois, c'est sur data.sti.be. Toi, tu es de nouveau sur data.mivb.bruxelles. Ça peut pas marcher, hein.
Mais fais chier. Et le template, il est sur le site de la région ou sur la commune?
Enfin, Peter, les templates, tu sais bien, c'est provincial, donc tu vas sur le site de la COCOF, et là, c'est dans les liens, en bas à gauche.
Et alors là, tu te connectes à l'identifiant de la Fédération en ligne Bruxelles.
Mais non, avec ton compte Microsoft, hein.
Mais ça n'a aucun sens.
Peut-être, mais ça marche.
Qui est vendu?
Alors, voyons ça. Bon, le prix de l'énergie, l'inflation, les finances ne sont pas au top, hein, quelle surprise. On va pas pouvoir maintenir tout le monde en poste. Au vu des taux de conversion calculés sur base de la fréquentation de nos rayons, il semblerait que la performance du jeune Arthur du rayon informatique ait été très médiocre pour le 3e mois consécutif. Arthur? Mais c'est mon futur gendre? C'est le moment de rafistoler quelques statistiques.
Je te vois, Noémie.
On t'a pas sonné, l'algorithme.
Je ne ferais pas ça si j'étais toi, Noémie.
Tu me vois rentrer à la maison ce soir et dire à ma fille dans le blanc des yeux que sa mère a viré son futur époux?
Nos recommandations sont basées sur des faits objectifs et il est prouvé
En attendant, c'est Marine qui va jarter.
Vous ne mesurez pas l'entropie que vous introduisez dans le système en ne respectant pas nos décisions.
Bon, où est ta prise d'alimentation, toi? J'en ai assez entendu.
Que fais-tu?
D'accord. Peut-être qu'ils ne sont pas exactement comme nous les avons entendus. Mais dans la ville, il y a plusieurs algorithmes différents en action qui font des projections et des calculs similaires. Certains proviennent du secteur public, d'autres sont gérés par des sociétés immobilières, des centres commerciaux ou des agences de publicité. Quand le Wi-Fi de nos appareils est allumé, les signaux sont collectés et écoutés par tous ces petits capteurs. Mais il faut bien dire que leur capacité à réellement suivre et quantifier est encore assez faible, qu'ils sont encore très sujets à la faiblesse humaine et qu'ils finissent souvent par être en discordance les uns avec les autres. Parfois, ils ne sont pas du tout efficaces. C'est pourquoi un partenariat public-privé entre la région bruxelloise, les sociétés des transports publics et la Fédération des entreprises pour les nouvelles technologies a soutenu le développement d'un méta-algorithme pour se projeter dans le futur. Un système unique pour interconnecter tous les écouteurs entre eux, un chef-d'œuvre de gestion cybernétique. Des centaines de flux d'informations agrégés et traités avec un côté open data pour les citoyens, et puis une large offre de tableaux de bord personnalisés pour la mobilité, le commerce, le développement urbain. Une véritable interface aux informations en temps réel sur les passants, jusqu'aux horaires de vente et consommation de la dernière gaufre et dernière trajectoire de vol des pigeons. Le tout en conformité avec les réglementations en matière de protection de la vie privée, évidemment. Bienvenue le Monstrum.
Tout est lisse, tout est fluide. Tout est sous contrôle. Ah, cette ville, comme je l'aime. Comme j'aime le regard détourné. Les passants qui passent, la circulation qui circule, les travailleurs qui travaillent, les consommateurs qui consomment. Tout est parfaitement à sa place.
Monstrum caresse la ville, la peigne pour qu'elle soit plus lisse. Mais quelquefois, une petite aspérité se fait jour, alors il la gratte. Il gratte jusqu'à ce que l'aspérité soit lissée. Ça l'agace un peu, oui, mais il garde le contrôle. Monstrum caresse la ville, la peigne pour qu'elle soit plus lisse, toujours plus lisse. Mais il arrive qu'en grattant les aspérités, ça laisse une petite marque, ça l'agace, oui, mais il frotte, et souvent la marque part, et il garde le contrôle. Monstrum caresse la ville, la peigne pour qu'elle soit plus lisse, Oui, plus lisse, mais les aspérités semblent se faire de plus en plus nombreuses. Il se dit que le peignage, le lissage, le grattage, le marquage, ça agace un peu les gens. Le monstre, oui, ça l'agace que des gardes le contrôlent. Monstrom caresse la ville, la peigne, pour qu'elle soit plus lisse. Mais vraiment, là, les aspérités aspèrent de plus en plus. Ça devient très agaçant pour le monstre, mais il tente quand même de garder le contrôle. La peigne pour qu'elle soit plus lisse. Mais des gens commencent à assumer leurs aspérités. Ils les revendiquent même. Le monstre, ça l'exaspère, mais il n'y a pas si longtemps, il avait encore le contrôle. La ville n'est bientôt plus qu'aspérité. Monstrom ne la caresse plus. Il tente de gratter, mais ça bruisse de tous les côtés. Le désordre se répand dans un vacarme sans nom. L'idée même de contrôle ne semble plus être qu'un lointain souvenir. Du nord au sud, d'ouest en est, toute la ville vibre au son de la rébellion. Monstrom s'agite vainement en tous sens. Ce qui n'était qu'une cacophonie rageuse a trouvé son rythme. Les ondes qui hier encore nourrissaient le monstre déferlent maintenant sur lui. Monstrom ne sait plus gérer la quantité d'input. Ses boucles de rétroaction s'en mêlent. Sa cybernétique est débordée. La bête implose.
C'était
Superflux.
Superflux.
Une non-non-fiction est réalisée par Corentin, Martino et Leslie. Avec les voix de Caroline, Arthur, Corentin, Émilie, Irénée, Guillaume, Milady, Sean et Sarah. Montage, mixage et sound design, Madame Patate.
Ce Micmac podcastique est issu des élucubrations de Constante, Technopolis Bruxelles, Culture Démocratie, Radio Panique.
Toute ressemblance avec des personnes, des objets et des algorithmes existants est purement volontaire.
Wendy, je t'avais bien dit, hein. Ce truc de partenariat public-privé, c'était quand même pas une grande idée.
Ah ça, la prochaine fois, on le confie à Google.
Voilà, on a eu des annonces déjà intégrales du son avec tout le cast, hein, mais donc pour les auditeurs auditrices du matin, donc Superflux, c'est la création radiophonique créée comme ça à partir d'un article pistage dans le cyberespace que Corentin tu avais écrit.
Tout à fait.
Et donc voilà, c'est une sorte de transformation fictionnelle ou non fictionnelle, comme il est dit, de cet article et de ce qu'il essayait de parler, de cette intrication de réseau Wi-Fi et autres, et de surveillance des gens.
Bah oui, parce que du coup, la question, c'est face à tous ces réseaux de surveillance ou ces objets très techniques, et ben, comment on en parle ? Et comment est-ce qu'on essaie de faire sens de tout ça, et puis une fois qu'on pense avoir compris un peu quelque chose, comment est-ce qu'on le raconte ? Et donc, ben, déjà, c'était chouette de pouvoir écrire l'article pour Culture et Démocratie parce que il y avait quand même une certaine liberté de ton. Déjà, dans cet article-là, je m'étais permis de faire des espèces de petits faux dialogues et des conneries comme ça. Mais alors là, avec la fiction radiophonique, on a pu se lâcher. Alors là, complètement. Mais donc moi je suis un peu curieux de qu'est-ce que ça fait d'entendre ça, peut-être si l'un de vous deux avait pas lu l'article, est-ce qu'on y comprend quelque chose et est-ce que ça marche?
Alors moi personnellement, donc j'ai pas lu l'article déjà, et en écoutant la fiction radiophonique j'ai compris que c'était des objets interconnectés, et après je crois pas avoir compris le fond du truc, quoi. Voilà. En toute honnêteté, j'ai pas. Enfin, là, tu poses la question et j'arriverai pas à te dire à part que c'est des objets interconnectés et que sûrement, voilà, il y a un truc de surveillance, de pub, de comment, voilà, on amène la pub dans nos objets connectés, etc. C'est tout.
Ok.
Donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus.
Mais on est là pour ça.
Oui.
Oui, d'ailleurs, il n'y a pas de. Ouais, je ne suis plus tout à fait sûr. Est-ce qu'il y a un rappel à la fin du podcast vers l'article pour justement en mode on savoir plus
Alors,
je viens d'entendre et déjà j'ai oublié.
Non, effectivement, c'est sur tout est en ligne, donc sur cultureetdemocratie.be. Et c'était aussi quand même la volonté que, bon, bah là, apparemment, de ce que tu dis, Lina, c'est un peu raté, mais c'est la volonté
non,
que
ça, pas raté.
Ça puisse être indépendant, ces deux œuvres littéraires et sonores puissent être, puisqu'on parle plus d'une création sonore que d'un podcast, voilà, juste histoire d'appellation. C'était l'idée que ça soit interdépendant et qu'on puisse comprendre l'un sans l'autre et que l'autre soit une sorte de aller plus loin, parce qu'évidemment, le texte va beaucoup plus en profondeur.
Mais après, oui, je pense quand même que quand on met le podcast, après, dans les hyperliens...
La création radiophonique.
Oui, non, mais...
Il est tôt pour Corentin.
Oui, non, très très tôt. Du coup, on met quand même en hyperlien le texte et comme ça, on peut creuser. Mais du coup, creusons.
Mais du coup,
Vas-y, Fred, pardon.
Il y a... Mais bah, enfin, dans le travail de mise en onde, mise en création sonore, il y a forcément, enfin, des coupes et plein de sections, plein de passages qui sont pas repris de l'article. Et donc, enfin, des choix à faire à ce niveau-là. Enfin, il y a toute une partie, enfin, dans le son. Le son est beaucoup plus individualisé, j'ai l'impression, alors que l'article est plus dans le contrôle des foules, de la masse de gens qui passent par la rue Neuve, de l'intrication des réseaux pour compter le nombre de personnes, etc. Et donc, pour moi, il y a vraiment une différence d'approche entre le son et l'article à ce niveau-là, quoi.
Moi, quand j'ai lu l'article, et c'est pour ça aussi que je l'ai choisi parmi 30 contributions très très bonnes sur la question des territoires, qu'est-ce qu'on va mettre en lumière, je trouvais qu'il était très pratico-pratique. Généralement, on est plus dans des réflexions, et là, il ressemble un peu à un tuto d'autodéfense numérique. Et de façon un petit peu quand même déjà personnalisée, justement, Corentin disait qu'il avait pris la liberté de mettre des dialogues ou des choses comme ça. Et je trouve que parfois c'est ce qui manque dans les réflexions ou dans ce genre de sujet, c'est une application très concrète de à quoi ça pourrait ressembler. Et le fait de savoir que oui, voilà, on marche rue Neuve et qu'en fait, c'est génial parce qu'on a une application qui nous dit le moment où la rue va être la moins achalandée, mais qu'en fait, on a joui, on arrête de dire le mot profiter, c'est ma résolution de la rentrée. On a joui des... je sais plus, est-ce que tu le dis dans l'article ou est-ce que c'est Martino qui me l'a dit en off, parce qu'évidemment, on allait faire des prises de son sur la rue Neuve, et Martino qui est le troisième co-réalisateur, donc il y avait ces décorations de Noël, et qu'en fait, on avait... joui de les installer et de ne pas trop les désinstaller pour mettre des caméras de surveillance dedans, enfin plein de petites choses qui à la base sont très pratiques mais qui en fait contribuent à la surveillance.
Et qu'on ne voit pas du coup.
Bien sûr, mm-hmm. Invisible. Mais ô combien sonore.
Oui, mais donc là, juste pour expliquer un peu de quoi qu'on cause comme genre de technologie de surveillance. Donc l'idée, c'est que quand on a un smartphone sur soi et que le Wi-Fi ou le Bluetooth est activé, en permanence, le smartphone va envoyer un petit signal pour essayer de détecter est-ce qu'il n'y a pas un Wi-Fi connu dans les parages. Et donc, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas le Wi-Fi de chez moi ou de mon boulot ou quoi, auquel je pourrais me connecter. pareil avec le Bluetooth, il va essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas un objet connu, un casque audio, n'importe quoi. Mais donc, en permanence, on envoie ces petits signaux et il est très facile de mettre des capteurs qui juste écoutent ce qui se passe à cet endroit-là. Et si on met plus de un capteur, on peut aussi commencer à comparer l'intensité des signaux qu'on reçoit et les trianguler. Et donc pouvoir repérer les émetteurs qui sont les smartphones, mais du coup qui en général sont portés par un humain derrière. Et le truc aussi, c'est qu'en général, du coup, ces signaux, ils ont un identifiant unique. Et donc on peut commencer à repérer si une personne elle vient régulièrement au même endroit, ce genre de choses, et voir, analyser ses déplacements. Si on met plein de capteurs comme ça, par exemple sur une surface commerciale chez City2 ou des centres commerciaux de ce type-là, et donc faire du profilage à ce moment-là des personnes et de quelles sont leurs habitudes, leurs comportements, quels achats est-ce qu'elles font, etc. On s'était dit avec la fiction que on pouvait incarner ces différents objets et les rendre la chose plus concrète en les personnalisant. Et du coup, c'est vrai que le changement d'échelle après de l'analyse plus massive de ce qui est fait de tout ça, c'est plus difficile à transposer en fiction. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un peu une différence d'approche entre le texte et l'audio, la création sonore, une foule en fiction, il y a certainement moyen, mais on n'en a pas eu l'inspiration de... Mais peut-être qu'il y aura une suite, peut-être que dans le prochain épisode...
Bien sûr qu'il va y avoir une suite.
Non, on entend bien d'ailleurs, déjà un moment où dans la création, il y a plusieurs des voix qui sont prises en même temps pour illustrer le fait que tout communique en même temps. Et déjà, on sent le côté un peu pénible pour l'auditeur d'avoir trop de choses en même temps. Donc oui, la foule est quelque chose de difficile à retranscrire comme ça pour garder quelque chose d'intelligible.
Mais alors, pardon, c'était une question, Fred ?
Non, vas-y.
Oui, parce que du coup, je me demandais, comment on se défend face à ce que tu viens d'énumérer, en fait, Corentin ?
Déjà, nous, la première idée qu'on a avec Technopolis, c'est que pour se défendre, c'est bien si on sait ce qui se passe, déjà. Parce que typiquement, cette histoire de footfall analytics ou d'analyse des fréquentations et des comportements sur base des ondes envoyées par les téléphones ou tout autre objet connecté, on pense qu'il n'y a pas grand monde qui est même juste au courant que ça existe. Donc cette étape-là, on trouve qu'elle est fondamentale, qu'il ne se passe pas juste ces trucs comme ça dans la rue, dans notre dos, sans qu'on se rende compte. Ensuite, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de rendre ces objets-là visibles. Donc souvent, quand il fait pas trop dégueulasse, on devrait en profiter un peu que c'est le mois de septembre d'ailleurs, on organise des balades dans Bruxelles pour affûter le regard et apprendre à repérer les caméras ou ces objets-ci. Parce que donc, comme le disait Leslie, là pour le coup, sur la rue Neuve, il y a des capteurs de ce type-là. En fait, c'est des bêtes boîtiers gris et qui paraissent tout aussi banales que les boîtiers pour l'électricité, la lumière ou quoi que ce soit d'autre. Donc, si on se dit pas, tiens, il y a quelque chose là, c'est impossible de le voir. Il y a des endroits où il y a quand même un petit panneau. Je parlais du City 2 tout à l'heure. Là, il y a un petit panneau à l'entrée qui dit qu'il y a une surveillance basée sur les ondes. Mais bon, il y a tellement d'informations quand on est sur la rue Neuve ou City 2 que ce petit panneau sur un coin de la porte, personne ne le remarque, bien sûr.
Les poubelles connectées aussi, ça c'est incroyable.
Les poubelles connectées, oui, bien sûr, c'est très important. Les poubelles dans le centre-ville qui envoient un signal chez Bruxelles Propreté pour dire qu'elles sont pleines. Avec l'idée que on va pouvoir licencier du personnel parce qu'on aura besoin de moins d'agents pour aller les vider régulièrement si elles nous préviennent quand elles sont pleines. Donc c'est toujours très charmant. Ils ont eu le je sais pas comment on peut dire, mais les éboueurs eux-mêmes qui ont inauguré ces poubelles-là, je trouvais que c'était assez fou comme façon de faire. Enfin bon, passons.
Puis elles peuvent se bloquer à n'importe quel moment. Exemple, une manif qui passerait rue Neuve aussi.
Oui, j'imagine. Je suis pas au courant. En fait, j'ai pas trop creusé la question la poubelle. Des poubelles connectées. J'ai pas fait mon taf correctement.
La poubelle bloquée dans quel sens?
Dans le sens ne plus servir d'arme ou de projectile ou de ça. C'est encore une fois, c'est
parce comme que... ça, d'accord. Ouais, voilà, donc voilà. Se fermer en fait.
Ok. Voilà. Oui, oui. Mm-hmm. Se fermer automatiquement de quelqu'un qui les programmerait à distance de loin. Ouais. Toutes ces infos, je les tire encore une fois de Martino quand on est allé faire les prises de son rue Neuve. Et c'est vrai que tu parlais des balades, c'est vraiment passionnant de voir l'invisible en fait, des passages, des rues qui nous sont très, très communes. Et puis tout d'un coup, se rendre compte que voilà, y a telle poubelle qui fait ça, telle caméra, c'est assez fascinant.
Sinon, du coup, sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire, je dirais qu'il y a une voie plus technique. Par exemple, on n'est pas du tout obligé d'avoir son Wi-Fi ou son Bluetooth activé quand on se promène rue Neuve. C'est pas forcément utile. Donc ça, on peut même installer sur son téléphone une petite app en plus qui va faire que, au bout de 5 minutes, quand on n'est plus chez soi, le Wi-Fi va se couper ou le Bluetooth va se couper. Il y a aussi moyen de configurer les téléphones pour que les signaux qu'ils envoient soient le plus anonymes possible, que tant qu'on n'est pas connecté à un réseau connu, le signal va être différent pour chaque nouvelle probe request, donc chaque nouveau signal envoyé. Sinon, donc ça c'est plutôt l'idée de disparaître des radars. Et après, il y a la technique inverse qui consiste qu'à surcharger d'informations contradictoires, improbables et faussées ces radars. Et donc là, par exemple, il y a en fait une petite amulette sacrée qui circule dans les Bruxelles, dont on ne sait pas d'où est-ce qu'elle sort, ni ses secrets de fabrication, mais qui envoie en fait massivement des signaux Wi-Fi. Et donc, si on porte une telle amulette sur la rue Neuve, les compteurs vont s'affoler et penser qu'il y a une manifestation ou je ne sais quoi en cours qui se déroule là. Donc voilà, ça c'est un peu les deux approches, mais plutôt techniques.
Ou avec l'amulette, on est presque en fait dans une action aussi politique.
Ouais, oui. Alors bon, c'est sûr qu'il n'y a jamais de choses qui seraient purement techniques ou purement politiques. Il y a un recouvrement entre les deux, mais c'était juste pour pointer le fait que peut-être qu'il y a un autre niveau de lutte qui serait de dire qu'en fait on refuse. La présence de ce genre d'objet. Et alors là, peuvent s'ouvrir différents modes d'action, que ce soit aller se plaindre au niveau de la commune ou des personnes responsables de ça, ou sortir son marteau et aller taper dedans avec joie, quoi. Donc, ou toute autre idée de façon pour se débarrasser de ces choses-là. Moi, je...
Stabiloter des QR codes.
Stabiloter des QR codes pour les
anti-lettres. Non, pas stabiloter, ouais. Ça marche pas. Non, plutôt un gros marqueur.
Mais donc oui, en tout cas, dans l'idée que... Ou même plus fondamentalement, changer les conditions sociales qui font qu'on est en permanence surveillé, exploité et qu'on essaie de nous vendre des conneries avec de la publicité. Ça, c'est encore un autre niveau de lutte. Là, par contre, j'ai pas d'idée sur comment faire. J'aimerais bien beaucoup, mais...
Peut-être revenir sur la dernière partie de la fiction et ce projet Munsroom. Là peut-être que c'est un peu une blague geek, mais on a transformé Munsroom en Monstroom et c'est là où apparaît ce monstre où peut-être certains fidèles auditeuristes de Radio Panique auront reconnu la voix du monstre qu'on entendra peut-être un petit peu peut-être en fin d'émission. Mais voilà, là c'était pour mettre en lumière et faire quelque chose qui est normalement très très beau, en tout cas dans le jargon publicitaire qu'il propose, Munsroom, en faire quelque chose d'un peu plus monstrueux.
Oui, donc Munstrom, donc Mun c'est pour la monnaie et Strom c'est comme un flux. Et donc c'est un projet qui est un partenariat, alors je vais essayer de pas me planter, entre la STIB, Parking Brussels, un service de mobilité de la région bruxelloise, Mobiris ou un truc comme ça. Et je vais arrêter de dire des bêtises.
D'où le partenariat public-privé. Quoi.
Voilà, et qui du coup se fait avec le soutien d'une part d'argent qui vient de l'Europe et aussi avec le soutien de BESI, qui est donc la chambre de commerce bruxelloise, et Agoria, qui est le lobby des industries technologiques et ce genre de trucs en Belgique.
Beaucoup d'argent.
Et donc l'idée c'est de en fait avoir une vision totale, complète de tous les flux de circulation qui passeraient par la monnaie, genre à trottinette, à vélo, en voiture, tout ce qu'on veut. Et donc le truc c'est que les gens qui voulaient avoir cette image-là, à la STIB en particulier, ils trouvent qu'il n'y a pas de technologie existante qui les satisfasse pleinement, et donc ils ont proposé de lancer cette espèce de projet pilote pour un budget, je crois, de 500 000 euros
pour
développer ça sur le terrain, une solution qui serait ad hoc et qui leur permettrait de vraiment pouvoir mesurer tous ces flux en permanence en direct, avec bien sûr l'idée qu'une fois que ce serait développé, alors ça pourrait se reproduire dans toutes les stations de métro, de pré-métro de Bruxelles, quoi. Donc voilà, c'est ça le truc qui est un peu flippant, parce que donc pour le moment les technologies dont on a parlé, elles sont utilisées soit par le secteur privé, donc dans toutes les grandes chaînes et tout ça, il y a des capteurs de ce type-là qui vont donc tenter de regarder est-ce que les gens passent plus de temps dans tel rayon que dans tel autre. Et ou alors voir plutôt l'efficacité de leurs employés. Donc s'il y a un vendeur qui est là et que en fait il y a plein de passages mais qui vend rien, bon, il est un peu nul, on pourrait peut-être le remplacer par quelqu'un qui a un meilleur taux de conversion et qui convertit les passants en clients. Donc ça c'est plutôt les usages privés, mais il y a les usages publics, et donc on a parlé de la rue Neuve, et donc malgré que ce soit une rue commerçante, c'est quand même un espace public. Et donc là, il y a un projet qui est un partenariat entre la ville de Bruxelles et un labo de l'ULB, des polytechniciens, des ingénieurs civils, et la police. Et donc là, ça compte vraiment les gens, ça les identifie pas normalement. Il y a une espèce de système d'anonymisation des signaux, mais donc le but est vraiment de compter et donc de faire de la gestion de foule, quoi, à ce moment-là. Mais donc pour le moment ces systèmes sont séparés, et bah le risque c'est que ce genre de technologie se répande à toute la ville, se généralise, et ça c'est vraiment des choses qui sont en développement, parce que le cas de la rue Neuve, ça a été permis par la situation sanitaire avec le Covid, l'idée qu'il fallait pas qu'il y ait trop de monde en même temps sur la rue Neuve. Mais avant ça, en fait, ce genre de mesures n'était utilisé que lors d'événements spéciaux. Donc que ce soit, je sais pas, la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ou bien les plaisirs d'hiver, le marché de Noël, ce genre de trucs. Mais donc c'était chaque fois ponctuel, quoi. Et c'était justifié par le fait que, exceptionnellement, il y aurait beaucoup de monde dans les rues de Bruxelles, et une foule à gérer, et que ça pourrait faciliter l'action de la police. Et puis les gens qui étaient derrière, ils se sont dit « Ah, mais en fait, ce serait cool qu'on puisse avoir des capteurs en permanence dans Bruxelles, on pourrait avoir des meilleures statistiques comme ça, on pourrait affiner notre outil. » Donc, ils avaient le plan, et le Covid est venu à leur rescousse pour pouvoir installer ça. Mais donc, voilà, comme je disais, c'est des trucs qui sont vraiment en développement actuellement, et qui donc aussi, pour nous, je crois, en tant que Technopolis, avec la volonté de limiter le déploiement des moyens de surveillance, sont des possibilités d'action. Parce que c'est très compliqué de dire « Ah, voilà, dans les rues de Bruxelles, il y a, disons, 1500 caméras publiques, on va les retirer. » Bah, c'est un peu compliqué pour les politiciens, etc., d'accepter qu'on retire des trucs qui ont déjà été installés. Par contre, on a l'espoir de peut-être mettre un peu du sable dans les rouages quand il s'agit de développer des nouveaux projets, installer des nouveaux moyens de surveillance et dépenser encore plus de thunes pour nous mettre des saloperies sur le dos.
Il y a surtout, enfin voilà, la thune, on peut l'utiliser pour plein d'autres choses. Hein. Il y en a beaucoup moins. Quoi. Donc voilà, c'est peut-être profitons de la crise financière pour arrêter tous ces projets.
Ouais, je voulais juste revenir sur tu parlais d'autodéfense numérique et c'est quoi les moyens de se protéger. Vous en avez parlé lors de l'agenda militant ce à quoi je vais aller dès ce soir au DK, parce que avant la conférence de Peggy Pierrot sur c'est pas moi c'est l'algorithme, il y a ces séances de détox numérique, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros on peut arriver avec son GSM, son ordinateur et se faire enlever tous les logiciels un peu trop propriétaires. Et donc il y a ça ce soir au DK et puis tous les premiers lundis du mois à la bibliothèque de Skerbeek, c'est ça?
C'est ça, donc tous les premiers lundis du mois on fait ça à l'Anarchive, donc c'est au 101 rue Josaphat à Skerbeek. Et si vous ratez ce premier lundi du mois, et ben maintenant il y a le deuxième lundi du mois au DK à Saint-Gilles, 71 rue du Danemark, un truc comme ça, ou même topo. Donc l'idée c'est que n'importe qui puisse venir et poser des questions, expérimenter, essayer de comprendre comment ces trucs marchent, comment est-ce qu'on peut les saboter, tout ça. Donc l'idée c'est vraiment qu'il y ait des gens qui s'y connaissent plus et moins et qu'il y ait un partage de savoir et qu'on puisse tout de suite mettre les mains dans le cambouis et essayer de un petit peu limiter la case de toutes les surveillances qui sont incluses dans les outils digitaux. Et alors aussi, j'ai oublié, mais je crois que c'est le troisième dimanche du mois. Là, c'est organisé par Neutrinet et les Gnuragistes. Et alors là, c'est à Laeken. Le Caldarium, ça vous dit quelque chose? Non? Bon. Je vais vérifier mes informations.
Ok. Eh ben, nous, il est déjà 8h50. Et on parlait de cyberespace, mais après, on va devoir... appeler dans l'espace, dans l'univers. On vous remercie, Leslie et Corentin, d'être venus ce matin et nous parler de toutes ces questions.
Un grand plaisir.
Merci de l'invitation.
On mettra aussi les liens sur le site de Radio Panique.
Vers l'article, vers la création sonore, etc. quoi.
Vous dire juste peut-être que prochain numéro la prochaine émission qu'on prévoit sur Radio Panique avec Culture et Démocratie, c'est donc autour du journal 54 sur le temps. Et on va s'intéresser à l'emploi du temps.
Ça aussi c'est un vaste sujet, c'est clair.
Oui, table ronde avec des personnages très fort singuliers et fort différents.